Bonjour à tous et bienvenue dans Sans langue de bois. Aujourd'hui dans l'émission Paroles de militants sur les ondes de Transistor, nous aborderons le thème du droit des femmes en présence de Tao, militante osée le féminisme, François, militant UMP et Sophia, militante Front de Gauche. Alors j'ouvrirai le débat avec une injonction de Saint-Just, Saint-Just inspirateur des droits de l'homme et du citoyen, qui dans l'esprit de la Révolution disait « Chez les peuples vraiment libres, les femmes sont libres et adorées ». Qu'en est-il de la question de l'égalité femmes-hommes aujourd'hui? Alors pour François Hollande, la création du ministère des droits des femmes devait être la première étape pour que la question des femmes soit prise en compte dans l'ensemble des politiques publiques. Najat Vallaud-Belkacem a avancé à sa création que le ministère des droits des femmes a pour but d'impulser, d'élaborer, de suivre et d'évaluer les politiques publiques et leurs effets sur les inégalités entre les sexes. Alors rappelons quelques données historiques et quelques chiffres. Incontestablement, depuis la fin des années 1960, on a eu affaire à une transformation des rapports entre femmes et hommes, et cela sur plusieurs plans. Le droit à disposer de son corps, donc avec la maîtrise de la fécondité, le développement de la scolarisation et l'accès élargi au marché du travail. Donc rappelons que les femmes étaient majoritaires dans la population française en 2011. Elles représentent 51,5% de la population. Bien que les femmes soient plus diplômées et plus nombreuses que les hommes à faire des études supérieures, elles ne paraissent pas pour autant protégées sur le marché du travail. En effet, les femmes sont deux fois plus touchées par le sous-emploi et le travail précaire, trois fois plus par le travail à temps partiel, et leur rémunération se situe en moyenne à 27% de moins que les hommes à compétences et qualifications égales. Peut-on dire, alors, aujourd'hui, que notre société est encore largement patriarcale dans sa structure et ses fondements, est-on finalement encore dans une vision traditionnaliste et passéiste de la famille? Donc en guise de présentation et pour vous présenter à nos auditeurs, j'aimerais donc ouvrir sur une citation de Françoise de L'Héritier, donc ethnologue, qui disait « La domination masculine est encore partout ». Et donc je vais vous poser la question, la domination masculine est-elle encore partout? Donc on va peut-être commencer avec vous, Tao, pour OLF, Oser le féminisme, qui, rappelons-le, se revendique universaliste, progressiste, abolitionniste et indépendante des partis. Alors, est-ce que vous soutenez l'idée de Françoise de L'Héritier que la domination masculine est encore partout?
Alors oui, en fait, justement, notre association travaille pour démontrer que dans la société française, il y a encore de très très grandes inégalités qui subsistent entre la situation et les conditions des femmes et des hommes. En fait, on peut dire que ces inégalités prennent racine en fait dans les stéréotypes sexués qu'on nous transmet. Et qu'on apprend depuis l'enfance, en fait. Donc il suffit de rentrer dans un magasin de jouets pour voir que les rayons sont très genrés. Donc il y a le rayon rose, le rayon bleu, le rayon des camions et le rayon des Barbie. Et en fait, ces rayons ne sont pas anecdotiques, puisque vraiment ils ont des conséquences sur la façon dont on éduque les enfants. Et comme tu l'as dit, on peut voir justement actuellement que les femmes sont précarisées dans le milieu de l'emploi et dans pas mal de milieux.
D'accord. Alors pour vous, la domination masculine est encore partout. Et toi, François, que penses-tu de la phrase de Françoise de L'Héritier? La domination masculine est-elle encore partout?
Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça prend complètement une tournure marxiste. La domination masculine est partout. Donc, c'est une nouvelle vision. Il n'y a plus la domination économique. Maintenant, c'est la domination de l'homme par la femme et qu'on met partout, à toutes les sauces, dans tous les rapports, mais vraiment sur des sujets divers et variés qui, parfois, je trouve, n'ont plus de rapport réel avec la domination masculine. Comme peuvent le prétendre les féministes, et en particulier Oser le féminisme.
D'accord. Donc l'UMP, on peut rappeler en 2010 que le gouvernement affirmait que la question des violences faites aux femmes devait être une priorité, en l'érigeant comme une priorité nationale.
La violence faite aux femmes, c'est un phénomène réel. c'est pas une interprétation de domination, de quand on dit qu'il y a une domination partout, c'est une interprétation des choses. La violence faite aux femmes, c'est un fait, et c'est un fait qui est complètement condamnable. Et c'est normal que le gouvernement, quelle que soit sa position idéologique, s'attaque à ce genre de phénomènes qui sont juste insupportables. Mais oui, on n'est pas obligé de... C'est le regard qu'on porte dessus. Moi, personnellement, je ne porte pas un regard de domination, surtout dans, le, dans ce cas-là.
Vous trouvez donc que cette injonction est peut-être un peu...
Abusive. Et pour moi, c'est vraiment reprendre la thématique marxiste pour donner un cadre d'interprétation des choses et le remettre pour tout le regard qu'on porte sur tous les aspects de la société, ce que je trouve dangereux.
Et Sophia, pour le Front de Gauche, la notion de genre au Front de Gauche, comment est-elle abordée ?
Juste une précision avant de vous répondre. Je ne suis pas là pour représenter le Front de Gauche, mais uniquement pour représenter le Parti de Gauche, qui est une des composantes du Front de Gauche, pas l'ensemble de ses composantes, parce que j'appartiens au Parti de Gauche uniquement.
C'est enfin, bien
qui est membre du Front de Gauche,
c'est
pour les autres camarades des autres composantes, juste. Point de détail, donc au Parti de Gauche, mais aussi du coup, ça rassemble les thématiques qui ont été proposées par le Front de Gauche, je sais c'est peut-être un peu compliqué, mais par le Front de Gauche pendant la campagne présidentielle. Donc là je reprends quelques points du programme. C'est vrai que c'est peut-être marxiste d'expliquer qu'il y a une domination des hommes sur les femmes, on en reparlera après parce que je suis assez interpellée par cette affirmation et j'ai quelques questions à poser à mon ami de l'UMP. Mais donc nous on a axé la défense du droit des femmes, on en a fait un des axes prioritaires de notre campagne parce qu'on pense justement que les femmes sont l'une des populations les plus touchées par les politiques austéritaires et par la façon de construire des politiques publiques aujourd'hui. Ce qui me fait rebondir un peu sur ce que disait ma camarade d'Oselle Féministe quand elle disait que donc la société est marquée dans son ensemble par cette opposition genrée entre hommes et femmes. Avec l'exemple des jouets dans les magasins, on peut rajouter à ça l'exemple des publicités qui sont de la violence symbolique à l'égard des femmes pour un grand nombre de publicités. Et donc ça fait partie du domaine du privé, malheureusement. Les jouets, ça appartient au marché, la publicité aussi. Plus difficile à atteindre au niveau des politiques publiques, puisque c'est de ça qu'on parle dans cette émission, si j'ai bien compris. Mais il y a tout un autre pan à observer. Donc voilà, dans la répartition des salaires. Et là, je me tourne vers mon ami de l'UMP pour lui demander, puisqu'il semble faire une distinction entre la violence faite aux femmes qui serait avérée et empiriquement reconnaissable, et les différences de salaires, en fait, qui ne le seraient pas, puisqu'on ne peut pas s'appuyer là-dessus comme argument. Donc, juste une chose à ce propos-là, parce que j'aimerais bien qu'on en parle. Je pense que donc, la question de départ était la domination masculine est-elle encore de partout ? Je pense que pas forcément de partout, parce que justement, sous le mandat Sarkozy, il y a eu certaines lois qui ont été émises, notamment concernant le taux de femmes dans les conseils d'administration. Donc là, je rétorquerais peut-être que la domination masculine n'est pas là où il y a du pouvoir, mais plutôt là où il y a de l'austérité, là où il y a de la précarité, où les femmes sont les plus touchées.
D'accord. Alors justement, on va rebondir là-dessus. Vous aviez parlé OLF et Parti de Gauche, que la société était marquée dans son ensemble. Donc ça nous amène à nous intéresser aux stéréotypes de genre et de normes sociales. Donc vraiment entrer dans cette question-là, et on pourrait peut-être se poser la question si ces stéréotypes peuvent expliquer pourquoi les femmes sont encore trop cantonnées à des rôles subalternes. Donc, sur l'interrogation entre la sphère publique et privée, et peut-on dire que les femmes sont exclues des prises de décision et ramenées à la sphère privée ? Sophia ?
Bon, bien sûr, je pense qu'on est tous conscients qu'il y a eu de gros progrès, notamment dans la société française, concernant cela. Donc, les femmes ont leur place entière dans la société, dans le public, pas que dans le privé, pas dans le cadre de la maison. Enfin voilà, elles ont réussi à s'affirmer dans le domaine du public, ce qui n'était pas le cas il y a une cinquantaine d'années déjà. Malheureusement, si elles peuvent s'affirmer, c'est rarement dans une position de force. Donc il y a ce qu'on appelle le plafond de verre qui empêche un peu l'ascension dans les entreprises, dans les postes à responsabilité. Il y a toujours ce problème des salaires. Il n'y a pas de loi en France pour dire que les salaires des hommes et des femmes doivent être à égalité, alors que dans des pays comme le Brésil, cette loi existe depuis 150 ans.
Mais au niveau de la norme sociale, est-ce qu'on a encore l'image de la femme qui doit être au foyer en France, vraiment spécifiquement ?
À cette image-là, je dirais que se substitue d'autres images. Je pense que cette image-là n'existe plus vraiment, mais d'autres images se substituent. Je parlais de la publicité, notamment tout à l'heure. Donc il y a la femme objet. C'est peut-être cliché, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment ramené perpétuellement dans les médias et dans les mentalités. La femme objet et puis la femme consommatrice aussi, je dirais, plus qu'actrice dans la société. Et ça, c'est des choses voilà, qui sont dérangeantes pour moi.
D'accord. Donc là, vous avez... donc tu as pu dire que la femme a quitté peut-être cette image de femme au foyer et devenue une autre femme, une femme qu'on met dans ses publicités, des femmes qu'on voit souvent dénudées, j'imagine. Je fais référence à tout ça.
Entre autres, oui.
Voilà. Et du coup, peut-être que... Tao, tu pourrais... oser le féminisme. Je sais qu'il y a un combat d'éducation populaire, il y a une place de l'éducation contre la lutte de ces stéréotypes de genre et de normes sociales. Finalement, c'est quoi votre levier d'action pour dépasser ces stéréotypes ?
Alors en fait, nous, on fait souvent des formations dans des collèges et des lycées. On fait des interventions, des ateliers. Et on est très étonnés justement de... Parce que Sophia a dit que donc, cette image de la femme au foyer a changé, et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on pensait aussi. Et en fait, dans les collèges et les lycées, on se rend compte, quand on demande aux jeunes, par exemple, les statistiques sur le travail des femmes, parce qu'en France, la très grande majorité des femmes travaillent, ils nous répondaient qu'ils pensaient que la majorité des femmes étaient au foyer. Donc, en fait, c'est... on peut pas... Bon, je pense que ça n'a pas tellement... pas changé tant que ça, en fait. Mais c'est pas... Il y a une autre chose, en fait, plus au-delà de cet imaginaire et de ce stéréotype de la femme au foyer, exclue de la sphère publique. Il y a aussi, en fait, toute la dimension économique qui oblige souvent, en fait, les femmes à rester au foyer pour garder les enfants. Donc, on connaît les inégalités salariales qui existent entre les hommes et les femmes. Les femmes sont... 80% des temps partiels sont tenus par des femmes. 80% des personnes qui gagnent en dessous du SMIC sont des femmes. Donc en fait, quand dans un couple, il faut choisir une personne pour rester au foyer, parce que il y a vraiment un problème en France aussi de mise en place des crèches
de
garde d'enfants.
Ça a fait l'objet d'une de vos campagnes.
C'est une campagne en préparation, en fait.
D'accord. Et donc, pour oser le féminisme, concrètement, les normes sociales sont restées les mêmes depuis
Alors non, bien sûr, elles ont évolué. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs vagues féministes qui ont fait qu'il y a eu des évolutions dans les mentalités. Donc il y a eu la première vague des suffragettes, il y a eu la vague des années 70.
Suffragettes, c'était quand même 19e...
Oui. Mais globalement, on parle de trois vagues féministes. Donc, il y a eu la deuxième vague qui était la vague des années 70, où les femmes ont affirmé en priorité la liberté de disposer de leur corps. Et donc, à ce moment-là, on a remis en cause toute cette dimension des femmes dans le milieu privé et les hommes dans le milieu public. Donc, c'est pour ça que les féministes ont affirmé le privé et politique. Et donc, il y a eu des évolutions, bien sûr, puisqu'on peut voir maintenant que la très grande majorité des femmes travaillent, alors que c'était pas si évident il y a moins d'un siècle. Donc il y a eu des évolutions, mais on peut dire que les stéréotypes et les mentalités changent très difficilement.
D'accord.
Juste, si je peux me permettre, sur la place des femmes dans les foyers, des choses intéressantes, toujours pour revenir sur le point de vue des politiques publiques, des choses qu'on peut proposer, c'est tout ce qui concerne les congés paternité, donc instaurer des lois qui régulent ça et qui permettent aux hommes de prendre autant de pouvoir prendre autant de congés paternité que les femmes, pour pouvoir aussi, ce que disait Tao, ne pas faire en sorte que ce soit obligatoirement la femme qui prenne sur sa vie professionnelle pour les enfants. Et voilà, le privé politique, et ça passe aussi par ce genre de propositions.
D'accord. Pour François, juste, on se rappelle en août 2012 qu'il y a eu l'apparition de la notion de genre dans les manuels de sciences et vie de la Terre, et 80 députés UMP ont demandé la censure de ce nouveau programme. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette censure traduit une vision traditionnaliste et passéiste de la famille, François ?
Une notion traditionnaliste et passéiste, non, je ne crois pas. Je pense que cette notion de genre, c'est donc les gender theories qui sont venues des États-Unis. Je trouve que c'est des positions qui sont assez idéologiques, qui font un peu fi de toutes les différences biologiques et des différences sociales ancrées, mais pas forcément que l'on n'est pas obligé de voir négativement, qui sont dans la société. Et que, ben, certes, l'UMP est un parti conservateur pour une partie de sa mouvance. Il y a plusieurs courants, vous savez, à l'UMP. Et si 80 députés UMP ont décidé de voter pour la censure, c'est complètement dans leur droit. Et je pense qu'on doit parfois être conservateur aussi sur certaines valeurs qui peuvent être propres à la société française.
D'accord, donc finalement, ces nouveaux programmes traduisaient eux-mêmes une idéologie sur le gender studies.
Oui, non, mais dans les programmes de l'éducation nationale, on a des questions à se poser, mais qui ne sont pas que non plus sur le thème de la théorie des genres. Je ne vais pas revenir sur la polémique des cours d'économie qui sont faits par des gens du front de gauche.
Oui,
on ne va pas revenir sur tous les sujets.
D'économie, mais par contre, on enlève les auteurs pour ne parler que de concepts, parce qu'un auteur, c'est un peu trop politique, effectivement.
Alors, on ne va pas parler d'économie.
Mais non, mais je voulais revenir sur beaucoup de choses qui ont été dites avant. Donc, par rapport aux salaires, qu'il n'y a pas de loi qui encadrerait les salaires. Oui, dans le public.
Les salaires, on en parle là tout de suite, parce qu'on va rentrer justement là dans l'action politique.
D'accord.
Donc, on va essayer de penser un peu l'action politique comme axe pratique de dépasser les stéréotypes de genre, si c'est possible. Et donc, retour là sur la campagne présidentielle qu'on a eue. On a vu, elle a été quand même très centrée sur la revendication salariale, femme-homme. Et c'est vrai que cette question occupait finalement la question du droit des femmes, a priori. Alors, est-ce que l'égalité salariale femme-homme serait seulement une question sectorielle? Et François, par exemple, est-ce que on peut la penser seulement en question sectorielle? C'est-à-dire, est-ce que cette question ne doit pas être transversale à toutes les politiques publiques qui doivent être menées, la femme comme...
Dans le cadre du secteur public, les salaires, c'est sur concours. Et le concours ne fait pas de différence si c'est une femme ou si c'est un homme qui passe le concours. D'ailleurs, on voudrait installer des quotas, j'ai entendu, dans des concours de la haute administration, ce qui me paraît complètement, dangereux de faire des séparations comme ça. Mais dans le cadre du privé, on va pas forcément dire à un patron vous devez embaucher une femme. C'est ça qui fait la différence entre le secteur public et le secteur privé. Le secteur public, c'est sur un concours. Le secteur privé, on va pas opposer au patron de faire des concours de recrutement qui ne font pas de différence entre un homme et une femme. Et je pense qu'il y a aussi une autre dimension qui fait qu'il y a une différence entre les salaires, c'est que les femmes peuvent être amenées à tomber enceinte. Donc ça, c'est quelque chose de biologique, et que certains patrons ne veulent pas à un poste qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, je ne vais pas trancher maintenant, mais que cette femme peut être amenée à quitter son poste pendant le temps de sa grossesse et après pour les congés maternité, chose qui est plus rare chez les hommes. Et donc, s'ils ont besoin à tout moment d'un de leurs employés, ils peuvent parfois être dissuadés d'employer une femme sur ce genre de poste, des postes à haute responsabilité. Donc ça, c'est un fait. Après, on peut l'interpréter de plusieurs manières, mais je pense qu'il y a aussi ça qui rentre en compte.
D'accord. Alors, pour le parti de gauche, la campagne donc, du front de gauche, pour le coup, qui était autour de l'humain d'abord, est-ce que cette question des droits des femmes avait été pensée de façon sectorielle ou transversale?
Non, on a une vision assez universaliste des choses au parti de gauche et au front
on
de gauche.
On rejoignait finalement
campagne.
Aux féminismes là-dessus?
Vraiment, c'est assez simple en fait. Notre programme, la partie de notre programme axée sur le droit des femmes était en fait une reprise de nos revendications pour montrer que dans toutes nos revendications, c'est l'égalité homme-femme qui prône. En fait, elle vient naturellement puisque c'est universaliste. Donc par exemple, notre revendication, une de nos grandes revendications, le SMIC à 1700 euros. Hommes-femmes et les salaires qui découlent ensuite, hommes-femmes, enfin des salaires non différenciés. Donc voilà, on a une vision assez universaliste des choses, mais je sais pas si j'ai le droit de poser des questions pour entrer un peu dans le débat.
Allez-y, si ça
de personne à personne. Très bien. Donc en fait, c'est un peu ce que vous défendez, un peu la loi de la jungle, la loi de la nature, où une mère célibataire, par exemple, ne peut pas s'attendre à avoir une vie convenable parce qu'elle est soumise aux aléas de la vie, elle peut pas, tomber enceinte seule. Et ensuite espérer avoir un travail, avoir une rémunération correcte par le seul fait qu'elle est une femme, en fait. Et du coup, l'égalité entre les personnes
est là, on aborde les théories essentialistes. Là, on voit bien qu'on parle de biologie. Il a dit une femme, a priori.
Ah, c'est social, quand même.
Donc, juste sur cette question-là d'essentialisme, peut-être que Oser le féminisme a quelque chose à dire là-dessus, sur ces théories répondre. Essentialistes.
Oui, en fait, juste pour revenir sur les théories du genre, en fait, justement, on ne remet pas en question le sexe biologique. C'est-à-dire que quand on parle de genre, on parle du sexe social, c'est-à-dire tout ce qui est construit petit à petit dans l'enfance, dans l'adolescence, pour faire qu'un individu c'est ce que disait Beauvoir justement, elle disait on ne naît pas femme, on le devient, c'est-à-dire qu'il y a toute une construction sociale du sexe dans notre société. Donc avec certaines qualités qu'on attribue aux femmes ou aux hommes, certaines compétences particulières, il y a une construction d'une sorte de binarité dans la société qui fait que voilà, on mettrait les hommes et les femmes chacun d'un côté, l'un du côté de la rationalité, l'autre du côté de la sensibilité, l'un du côté de la force, l'autre de la faiblesse.
Ouais. Cette fameuse théorie essentialiste que l'homme est fort et la femme plus faible biologiquement.
Non, ça fait partie, mais c'est beaucoup d'autres choses. L'essentialisme dans le féminisme, c'est revendiquer l'égalité dans la différence, en fait. Nous, on est universaliste, donc on dit que les différences sont beaucoup plus construites que naturelles. Donc, par exemple, si vous lisez Catherine Vidal, qui est neurobiologiste, le cerveau a-t-il un sexe ? Elle déconstruit beaucoup de préjugés et de stéréotypes qu'on pouvait avoir sur quelles sont les compétences masculines ou féminines, qu'est-ce qui est naturel ou pas. Parce qu'avec toutes les nouvelles technologies de l'imagerie de l'IRM, par exemple. On peut voir que à la naissance, les bébés n'ont que 10% de connexions, en fait, et que les 90% des autres connexions se font au cours de la vie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, à terme, autant de différences de cerveau entre deux hommes, entre deux femmes, qu'entre un homme et une femme. Voilà.
Oui, non, mais on ne va pas rentrer dans des débats de type scientifique, parce que c'est clair et net que c'est un sujet qui reste encore social, mais quand on fait des encéphalocardiogrammes de femmes et d'hommes, on voit que ce n'est pas forcément les mêmes zones du cerveau qui sont utilisées.
Oui,
après, on n'est pas obligé d'étendre... Non, j'ai pas parlé d'eux, donc je... après, on n'est pas obligé d'étendre ça à toutes les sphères et à dire oui, c'est à cause de la science que, par exemple, il y a plus de patrons hommes. Donc, non. Moi, je ne défends pas du tout ça. Ce que je dis, c'est que quand... on fait fi de la biologie jusqu'au point, comme Elisabeth Badinter, de dire que l'allaitement, c'est l'asservissement de la femme, je trouve qu'on arrive à un point où l'idéologie remplace complètement la réalité biologique. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez quand Elisabeth Badinter avait dit quelque chose pareil. L'allaitement, c'est quand même quelque chose de plus naturel qui est possible. Donc, je ne vois pas comment on peut dire que c'est l'asservissement et évidemment remettre ça dans le cadre de l'idéologie, la domination masculine, alors que c'est un fait biologique avant tout.
Et justement, là, on parle du corps. Peut-être qu'on peut aller un peu plus en dedans de cette question et puis parler du droit à disposer de son corps. Donc là, on voit quand même qu'il y a des avis assez... C'est des visions même opposées. Là, on voit sur l'allaitement, ça peut être vécu comme quelque chose de difficile pour la femme. Et puis finalement, d'autres qui pensent que c'est a priori naturel. Et puis ça entre dans l'ordre biologique des choses. Oui, Sophia ?
Pour l'allaitement, effectivement, ça peut être vécu comme un handicap d'allaiter une femme dans la mesure où... d'allaiter un enfant, excusez-moi, pour une femme. Dans la mesure où... Ce que disait François, dans la mesure où... Si on tombe enceinte, si on doit s'occuper d'un bébé, ben voilà, on se confronte à un monde du travail qui va se refermer face à nous parce qu'on a besoin de ce temps-là pour s'occuper de nos enfants, pour s'occuper de... Enfin, voilà. Donc l'allaitement, c'est pas un problème dans la mesure où on est dans une société qui accepte ces temps-là, qui accepte des temps de repos où on a le droit de s'occuper de sa vie de famille, qu'on soit homme ou femme. L'allaitement, il est stigmatisé que dans la société... La société de précarité dans laquelle on met les êtres humains, dans laquelle on prend un danger en allaitant son bébé. Donc moi, je vous rejoins là-dessus, effectivement. Mais dans l'autre sens, en vous disant que c'est à cause de la société que vous prenez que forcément on commence à stigmatiser ce genre de pratique.
Déjà, je ne prône aucune société. Je pense que la société est un fait avant tout et que on doit la vivre comme elle est après et qu'on ne doit pas forcément faire des lois pour changer toute la société et encadrer toute la société.
Pour vivre la société comme elle est, François. Là, sur la question du droit à disposer de son corps, on va juste rappeler un événement qui est quand même assez important pour le droit à disposer de son corps. La remise en cause publique du droit d'avortement par Marine Le Pen face à Jean-Luc Mélenchon qui, l'émission des paroles et des actes, avait osé finalement l'antiféminisme, on peut dire, et qui parlait de l'IVG de confort. Quelqu'un a...
J'ai des choses à dire là-dessus. Bien sûr, je ne reviendrai pas sur le remboursement de l'IVG, la prise en charge de l'IVG, qui, selon moi, est... Voilà, là je suis d'accord, il faut laisser la société comme elle est, tant qu'elle permet l'IVG, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je voulais dire à propos de l'IVG, c'est que ce genre de pratique est complètement incompatible avec une société dans laquelle on prône l'austérité. Si on regarde juste sur la commune de Lyon, les politiques d'austérité, qu'est-ce que ça touche en premier ? Et ben les centres de planification. Donc vous pouvez faire un tour à Croix-Rousse par exemple, où le centre de planification est en train de subir de graves coupes budgétaires
Alors déjà, l'État avait remis en 2009, remis en cause les financements qu'il accordait au planning familial. Mm-hmm. Donc là, c'est bien en effet de relier économie et droit à disposer de son corps.
Bien sûr, quand on parle de politique publique, on est obligé de parler d'économie. Et puis voilà, c'est exactement ça. Le droit à disposer du corps des femmes, il est complètement remis en question par les politiques prônées sous Sarkozy, par les politiques prônées aujourd'hui sous Hollande, d'austérité, de coupes budgétaires. Les premières personnes, je vous le disais, les premières personnes qui passent à la trappe avec ces politiques-là, ce sont les jeunes et les femmes. Donc voilà, là on a l'exemple parfait.
Les femmes quand même qui représentent plus de la moitié.
51%, donc pas une minorité, mais une population minorée plutôt que minorité.
François, sur ce sujet.
Oui, donc par rapport à l'IVG, donc c'est une question qui est quand même assez complexe. C'est vrai que l'acte de l'IVG n'est pas un acte anodin. C'est pas, il faut un centre d'IVG dans tous les coins de rue non plus. Donc je veux dire, il y a encore un moyen de faire des IVG dans les grandes villes. Il n'y a pas un blocage
2007,
de l'accès à l'IVG.
Une dizaine de centres donc IVG donc enfermés en France avec donc la mise en place du paiement à l'acte. Donc voilà, oui. Qui a rendu en fait la pratique de l'IVG trop coûteuse. Là, on parle donc c'est vraiment le coût de l'IVG. Pas la disparition seulement des centres. Donc en fait le droit à disposer de son corps, la question c'est ça, c'est a-t-il un prix ?
Non mais par rapport à l'IVG, ça reste et ça doit rester une mesure exceptionnelle. Donc nous tous ici, je pense qu'on a déjà vu l'image de Simone Veil à l'Assemblée nationale quand elle défend la loi Veil. C'est pour défendre les femmes qui se font avorter avec des aiguilles à tricoter, qui finissent par mourir. C'est défendre des femmes qui sont dans une extrême détresse. Ce n'est pas un acte anodin comme ça. Et je pense qu'il faudrait qu'on remette un peu l'IVG à sa place, qu'aujourd'hui il y a 200 000 IVG par an. C'est quand même un nombre énorme. Et je pense que la liberté de disposer de son corps, c'est justement ne pas en arriver à l'avortement. Et c'est d'avoir des mesures d'éducation suffisantes pour ne pas avoir un nombre d'IVG qui est quand même assez, assez élevé aujourd'hui. Je pense que la réelle liberté de disposer de son corps, c'est quand même ne pas en arriver là.
Oser le féminisme là-dessus, Tao ?
Oui, alors en fait, ces déclarations sur l'IVG et ces attaques systématiques montrent en fait une vraie méconnaissance de la situation en France de l'IVG pour les femmes. C'est-à-dire que, évidemment, que ce n'est pas un acte anodin, puisque ce n'est pas de la contraception. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité des femmes qui ont recours à l'IVG sont sous contraception. Donc ce n'est pas une réponse contraceptive. Après, ce qu'il faut savoir également, comme disait Sophia, c'est qu'il y a de gros problèmes en France par rapport aux fermetures des centres IVG, c'est-à-dire que l'accès à l'IVG n'est pas du tout donné en France. En 10 ans, il y a eu presque 179, en fait, pour être exact, centres IVG qui ont fermé. Donc, à Lyon, cet été, il était presque impossible d'avoir accès à l'IVG puisque il y a des temps d'attente qui sont beaucoup trop longues. Donc non, pas du tout, c'est pas du tout un caprice, et l'IVG de confort, je comprends pas ce que ça veut dire.
Sur le droit à disposer de son corps, toujours, la question de la prostitution. Donc là, on entre encore dans le cœur du débat. Oser le féminisme, au paragraphe 8 de votre charte, adoptée en mai de 2012, vous revendiquez abolitionniste. Alors là, pour vous, la prostitution est une violence faite aux femmes, je cite, « elle est contraire à la dignité humaine et au droit à disposer de son corps ». Plus loin, vous dites « nous militons pour la liberté sexuelle de chacune et de chacun, élément d'anticipation, d'émancipation individuelle ». Là-dessus, la liberté sexuelle est-elle compatible avec l'abolition de la prostitution ?
Ah, complètement. En fait, la liberté sexuelle existera quand la sexualité ne sera plus monnayée. C'est-à-dire qu'on est totalement justement pour la liberté
sexuelle. On n'est donc pas libre de monnayer son corps ?
En fait, il y a toujours. On n'est jamais libre de monnayer son corps puisqu'il y a toujours une contrainte économique. C'est-à-dire
on
que.
On parle toujours d'économie, là, finalement.
C'est pas du tout anodin que 90% des prostituées sont des femmes. C'est-à-dire que c'est pas que les femmes préfèrent vendre leur corps et les hommes moins. C'est que les femmes sont contraintes à cette précarité-là. Et donc, nous, en tant qu'abolitionnistes, à ne pas confondre avec prohibitionnistes, puisque nous ne sommes pas nous ne sommes pas contre les prostituées. Nous voulons justement qu'une politique, un débat public soit ouvert et qu'une politique publique soit mise en place pour les protéger, pour les réinsérer dans la société, les sortir de la précarité et justement pas. Enfin, nous sommes contre par exemple, la loi dite sur le racolage. Passif qui a été mis en place sous Sarkozy et qui, au lieu de défendre les prostituées, les victimise et les stigmatise. Voilà.
Donc cette loi en fait qui avait été, rappelons-le, c'est 2003 quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Ouais. Donc vous revendiquez abolitionniste et vous êtes pour l'abrogation du délit de racolage passif, on le comprend bien. Le Front de Gauche, le Parti de Gauche est-il sur cette question pour l'abrogation du délit de racolage passif et pour la pénalisation des clients prostituteurs ?
Donc, dans le programme du Front de Gauche au présidentiel, on est sur les mêmes lignes qu'au féminisme. Je tiens à signaler d'ailleurs que le programme du Front de Gauche sur les matières en question de droits des femmes a été salué par au féminisme pendant la campagne. Donc, on a pas mal de lignes en commun. Mais donc voilà, je peux vous citer un peu ce que nous proposions à cette époque-là, ce qu'on propose toujours d'ailleurs. Donc, la même chose, abroger le délit de racolage passif comme actif, les moyens de réprimer le proximitisme. Confiscation des biens mobiliers et immobiliers du proxénète, politique d'alternative à la prostitution, protéger les personnes étrangères victimes de la traite ou contraintes à la prostitution, ce qui est aussi très, très important, c'est un autre volet, donc voilà, qui se rapporte aussi à la pardon, excusez-moi, à donner des papiers à tous les sans-papiers, je ne trouve plus le mot savant, et politique de prévention dans les établissements scolaires aussi, voilà. Et du coup, je tiens à rappeler aussi que, donc on est à peu près sur les mêmes lignes qu'au féminisme, je tiens à rappeler qu'il y a plusieurs façons de lutter contre la prostitution, qu'il y a donc l'abolitionnisme, mais qu'il y a aussi la criminalisation de la prostitution, ce qui a été dit, qui serait plutôt ce que l'UMP proposerait, donc je laisse...
Juste là, sur cette question, est-ce que le Front de Gauche pense que le délit de racolage passif serait une instrumentalisation de la vulnérabilité des prostituées, voire même, on a pu entendre à cette époque, un nettoyage de trottoirs. Critique sur la politique...
Ah, oui, bah bien sûr, voilà, c'est ça. Enfin, il y a deux manières de lutter contre la prostitution. Soit... on criminalise les personnes qui en profitent, les clients ou les proxénètes, notamment surtout les proxénètes, soit on criminalise les prostituées. On peut choisir de voir les prostituées en victime et de criminaliser les proxénètes.
Justement là-dessus, on peut rappeler que cette loi donc, a été votée en 2003 est en violation avec la convention de l'ONU de 49, ratifiée donc, par la France en 60, qui a pour principe fondamental donc, la protection des personnes prostituées.
Voilà, là, c'est pas à moi de m'expliquer sur ce sujet.
Là-dessus, François, le droit à disposer de son corps Et l'abrogation du délit de racolage passif.
Donc juste pour revenir, donc Mademoiselle de Ozel Féminisme a donné des chiffres, je peux en donner. 70% des femmes qui ont recours à un IVG et qui étaient sous contraception ont eu un manquement dans la contraception. Donc ce n'est pas non plus...
Merci. On va demander aux hommes de prendre la pilule, je crois, parce que...
Non, mais on peut mettre des préservatifs, sinon c'est pas... Il y a des contraceptions qui marchent des deux côtés. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui sont en âge et qui ne vont plus avoir d'enfants. Il y a d'autres méthodes qui existent sur les hommes. Je ne vais pas en faire débat maintenant. Donc, pour revenir sur la prostitution, le proxénétisme, c'est clair et net que c'est un... que c'est un problème de taille. La loi sur le racolage passif, déjà, c'était dans le cadre, donc en 2003, quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, c'était un ensemble de lois sur dans la rue qui voulait limiter le genre, les comportements qu'on ne voulait pas voir dans la rue. C'était pas uniquement la question de la prostitution, et le but même n'était pas l'abolition de la prostitution.
Et du coup, est-ce que c'était de nettoyer les trottoirs ?
Nettoyer les trottoirs, oui, c'était clairement de ne pas voir des prostituées en tenue provocante ou en ou quoi que ce soit qui invitaient les gens et suscitaient la prostitution. Oui, c'est clair et net. C'était on peut parler de nettoyage de trottoirs, même si dans l'idée de nettoyage, il y a toujours cette idée péjorative.
Mais du coup, tout à l'heure, parlait d'axes assez sectoriels. Là, finalement, est-ce qu'on peut dire, on va reprendre nettoyer les trottoirs ? C'est pas mener une politique sectorielle, donc là, a priori, sur ce sujet-là. Est-ce
que la question des femmes... C'était dans un ensemble. Hein. La loi sur le racolage, c'était dans un ensemble de lois. C'était pas que la prostitution qui était traitée dans ce sens.
Bien sûr, mais est-ce que du coup, ça faisait partie d'un ensemble, une politique qui s'intéressait aux droits des femmes plus généralement, on l'a vu tout à l'heure, universaliste. Est-ce que cette question du droit à disposer de son corps a été en fait en lien avec ce nettoyage de trottoir ?
Non, mais le problème, c'est qu'on parle de... Il y a deux phénomènes différents dans la prostitution. La prostitution avec des proxénètes. Donc là, il n'y a pas de liberté à disposer de son corps vu qu'il y a une menace au-dessus, une menace autoritaire. Donc là, il n'y a pas de liberté à disposer de son corps. Et l'UMP, comme tous les partis un peu sensés, lutte contre ce genre de phénomène. Après, il y a une prostitution et qui n'est pas négligeable. Notamment, je voyais dans la prostitution estudiantine, il y a des jeunes filles qui préfèrent pratiquer la prostitution occasionnelle plutôt que d'aller travailler dans un supermarché. Et là, ce que fait OLF, c'est du moralisme. C'est dire, ce n'est pas bien ce que vous faites, on va l'interdire. Moi, je dis que on est encore dans un état de liberté.
Sexuelle. C'est ça ?
Vous si on veut tarifier ces pratiques sexuelles...
Voilà, elle parlait de monnayer son corps tout à l'heure.
Donc, monnayer son corps.
Vous pensez la liberté sexuelle comme ça. Donc là, vous êtes en opposition là-dessus. Pour vous, ce n'est pas... Enfin, c'est un élément donc, d'émancipation individuelle ?
Non, pour moi, c'est...
Qu'on clarifie un petit peu, parce
moi,
que...
Moi, je dis pas aux gens ce qu'ils veulent faire ou pas faire. Je dis pas aux femmes qu'il faut pas qu'elles restent chez elles,
qu'elles
élèvent leurs enfants. Je dis pas aux femmes qu'il faut pas qu'elles se prostituent.
C'est la visibilité qui
dérange. Ah non, là on revient sur le projet de loi ou on revient sur...
Parce que... Il faut que ce soit cohérent, en fait.
Oui, non, voilà. Mais donc moi, je dis que je ne fais pas de moralisme, que je dis pas ce qu'il faut faire ou pas faire, et que le problème, c'est quand il y a une contrainte extérieure, mais quand la femme a envie de monnayer son corps, je reprends le vocabulaire de OLF, tant que ça reste dans le domaine privé, on va pas aller de partout. Ceux qui font du moralisme à outrance comme ça, ça finit sur des... régimes qui ne sont pas très recommandables.
D'accord, donc on a bien compris là, le clivage entre vous trois, cas.
Après, moi, il y a deux choses concernant... oui, non, j'ai un petit regret. J'ai pas suivi énormément tout le processus de travail autour du gouvernement actuel et de la ministre du droit des femmes sur ces questions de prostitution. Et j'ai pas compris s'il y avait des prostituées intégrés dans le processus de discussion, parce que bon, voilà, il y a des syndicats de prostituées qui font porter une autre voix. Si c'est pas le cas, c'est un regret pour moi, parce que bon, voilà, je pense que c'est des personnes à impliquer dans le processus de discussion sur cette interdiction ou non de la prostitution. Et que voilà, je veux pas parler en leur place, en leur nom. Donc voilà, après, oui, pour ce qui est de l'idée de la sphère privée, enfin, l'argument est facilement démontable et je comprends pas que, voilà, les prostituées ont le droit de faire ce qu'elles veulent tant que ça reste dans la dans la domaine de la sphère privée. Les femmes battues, si elles aiment se faire battre, tant que ça reste dans le domaine de la sphère privée. Enfin, voilà, c'est le même genre d'argument.
Est-ce que les femmes battues aiment se faire battre? Non, mais il faut.
Bah, je sais pas, parce que par exemple, voilà, il y a des femmes qui se font battre et qui vont pas porter plainte. Voilà. Enfin, c'est le genre d'argument qui ne tient pas debout.
Parce qu'il y a des conséquences extérieures.
Mais voilà, il y a des prostituées qui ne portent pas plainte, qui n'arrêtent pas parce qu'il y a des conséquences.
C'est,
enfin,
Sophia, c'est encore, le genre d'argument. Une belle leçon de moralisme de la part de la gauche.
Du tout, c'est pas une belle leçon de moralisme, c'est une interrogation sur des préconceptions, sur des idées reçues, des idées toutes faites que je cherche à interroger. Donc là, pour moi, il y a des idées toutes faites de ce côté-ci. Je me demande, est-ce qu'il ne faut pas les remettre en question? C'était une interrogation,
alors,
pas une attaque.
Tao, droit de réponse?
Oui, alors je vous conseille d'aller voir justement les associations qui travaillent sur le terrain avec les prostituées pour voir vraiment ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, comme le mouvement du Nid qui suit 4000 à 5000 prostituées par an et qui travaille vraiment, enfin, vous pouvez aller à Lyon, ils font des maraudes le soir pour vraiment voir au contact des prostituées, parler avec elles, voir quelles sont leurs conditions de vie, si elles aiment ça. Et ça, c'est un travail. C'est-à-dire que si, pour elles, si c'est un travail, pour elles, c'est pas de la sexualité.
Si elles revendiquent voilà. quand même leur liberté, par quoi ?
Après, oui, pour revenir à ce sujet, en fait, il y a une minorité de prostituées qui revendiquerait donc cette liberté. Il faudrait les laisser faire. En fait, on est là quand même pour parler de projet politique, c'est-à-dire que on n'est pas là pour parler de. C'est pas une somme d'individualité qui fait une société. Si j'ai envie de griller un feu rouge, je devrais pouvoir griller un feu rouge. C'est ma liberté individuelle. Non, c'est un projet de société qu'on
c'est dangereux de griller un feu rouge, hein.
Ou qu'on
si
ne porte pas.
On se prostitue, ça n'engage que nous et la personne en face. Hein.
Donc en fait, ça voudrait dire qu'on accepte de faire entrer le corps dans le système marchand. On peut vendre tout ce qu'on veut, donc on vend son corps, on pourrait vendre un organe, ouais. tant que ça ne regarde que nous. Non mais c'est ça. Donc quel projet de société est-ce qu'on veut ? Il faut voir ce qui se passe par exemple en Allemagne ou aux Pays-Bas, justement, qui sont pris comme exemple par des associations comme le Stras, qui, je le répète, ne représente qu'une minorité de prostituées. Et voir ce qui se passe là-bas, justement, il y a vraiment une remise en cause de la politique sur la prostitution, justement, parce qu'il y a une explosion des filières de mafieuses et des filières de proxénétisme. Enfin,
d'accord, d'accord. Donc, cette question-là, on a bien vu donc, vos lignes de clivage. On va passer à une question, alors là, un peu pour terminer, pour ponctuer tout ça, la question de la religion. Et de la place de l'Église dans nos sociétés. Autour de cette réflexion, le poids de la religion aujourd'hui dans nos sociétés renforce-t-il le modèle archaïque dominant ? François, tu veux ouvrir avec le lien entre tradition et religion, peut-être petit rappel. Donc on sait que l'Église, il y a le refus du droit à disposer de son corps. Donc ça, c'est une interprétation sur le fait que l'IVG soit interdit. Il y a une certaine sacralisation de la maternité, de la femme comme mère, et un contrôle donc de la sexualité. Un lien entre tradition et religion et finalement droit des femmes.
Bon, on peut voir ça sous un autre angle. Je pense que la religion peut être aussi un garde-fou parfois contre des dérives qui sont un peu extrêmes et un peu sectaires dans les pratiques et dans les revendications des féministes aussi. Par rapport à la contraception, c'est vrai que l'Église a toujours eu... l'Église catholique, on parle, mais il y a d'autres églises. Hein. Je pense que beaucoup de... quasiment toutes les religions sont unanimes sur... les religions monothéistes sur l'IVG. Après, encore une fois, l'Église n'a plus aucun lien directement avec le pouvoir. Elle fait un poids de pression, mais comme les féministes font un poids de pression. Et chacun a le droit d'exprimer ses opinions. La part de la France qui est catholique reste encore une part assez importante et elle a sa légitimité dans l'histoire de France pour aussi donner son opinion dans le débat public.
D'accord. Oser le féminisme là-dessus, donc il se revendique aussi laïque, la laïcité comme première condition de s'émanciper pour la femme. Là-dessus, oui. D'ailleurs, les féministes sont souvent, on leur dit souvent qu'elles sont anti-religieuses. Vous répondez à quoi à ça ? Là, on ne va pas confondre hein, laïcité, mais est-ce que finalement être féministe, c'est être anti-religieux ?
Alors, nous, on se revendique totalement laïque, c'est-à-dire que on se bat contre tous les intégrismes, qu'ils soient catholiques ou autres. Mais en fait, dans notre association, on se méfie beaucoup de l'exploitation qui est faite des religions, justement en particulier de la religion musulmane, pour stigmatiser certaines catégories de population en utilisant les droits des femmes, comme si l'avancée pour les droits des femmes ne concernait qu'une partie et que l'autre, la société française, était exempte de défauts et que une minorité venait embrouiller tout ça. Donc nous, enfin, par exemple, dans l'actualité, donc on a entendu parler récemment du procès de Créteil. Il y a eu encore une fois une utilisation du fait que ce fait de société a eu lieu dans les quartiers pour dire que comme si ça ne concernait en fait qu'une partie de la population, alors que le viol c'est un problème de société, c'est massif, c'est-à-dire que ça concerne vraiment tout le monde. Il y a 75 000 femmes qui sont violées chaque année, donc c'est une estimation de l'Observatoire national de la délinquance sur les femmes majeures, donc on pense qu'il y en a beaucoup plus. Donc en fait, voilà, on est laïque, mais on se méfie de tous les intégrismes, de la récupération politique qui peuvent être faites de certains sujets liés aux droits des femmes pour stigmatiser certaines populations.
Et le front de gauche là, sur cette question,
on est sur la même ligne qu'oser le féminisme, encore une fois. On pense que la laïcité, c'est le seul moyen de s'affranchir de stéréotypes qui soient sexistes ou patriarcaux, notamment par l'éducation. Et oui, je mets aussi un point d'honneur à signaler qu'effectivement, il y a certaines associations féministes. Il y en a une dans la région lyonnaise que je ne citerai pas, mais bon. Il y en a une dans la région lyonnaise qui prend un malin plaisir, sous couvert de féminisme, à être complètement islamophobe. Et donc on peut voir aussi dans une certaine littérature, de la même manière, des propos totalement islamophobes, totalement racistes,
sous couvert de féminisme. Vous émettez une réserve là-dessus, sur la laïcité, parfois.
Non, du tout.
La
laïcité, c'est la condition sine qua non au féminisme, à une société non patriarcale.
Sur le prétexte de laïcité, c'est
après,
ça. Vous émettez
faire très très attention à, voilà, sous couvert sous cette rhétorique-là, certaines peuvent être, certaines féministes, enfin pseudo-féministes, parce que je suis désolée, pour moi, c'est pas des féministes, peuvent tenir des propos islamophobes, et c'est une rhétorique de plus en plus utilisée, de plus en plus sournoise, à laquelle il faut faire, il faut rester vigilant.
Juste un mot. Pour conclure ce débat, cette partie du débat, sur tous les intégrismes. Donc, je suis d'accord, les intégrismes religieux sont à bannir, mais il faut aussi faire attention aux dérives intégristes qui sont aussi dans les rangs des féministes, comme elle vient de le dire, mais ce n'est pas forcément que l'islamophobie, c'est toutes des revendications qui sont parfois un peu intégristes.
D'accord.
Ouais, après, juste sur le mot intégriste, c'est plutôt dans l'autre sens, je ne comprends pas bien d'habitude.
Non, l'intégrisme n'est pas que religieux, l'intégrisme est politique.
D'accord.
Et est-ce que, donc, pour conclure tout ça, on pourrait dire la société aujourd'hui peut-elle être encore progressiste et émancipatrice en matière de droits des femmes ? Doit-elle l'être, François ?
Est-ce qu'elle peut encore progresser dans le sens des droits des femmes ?
Oui.
Je pense que oui, peut-être qu'on arrivera à un stade où les femmes seront aussi bien payées, aussi bien intégrées dans les hautes couches de la société. Ce que je défends juste, c'est que les moyens pour y arriver, ce n'est pas des lois et des grands coups de...
Ce serait
utile, ouais, ces moyens.
Ah mais c'est dans l'éducation, c'est dans la société.
L'éducation
c'est quelque chose qui passe par
l'éducation
nationale.
L'éducation.
Les dépenses dans l'éducation.
C'est ça.
L'éducation.
Je rejoins ce que dit mon camarade de l'UMP, effectivement, ça passera par l'éducation notamment, l'éducation dans laquelle il faut mettre des moyens. Ça passera par la prévention, ça passera par la laïcité, ça passera surtout pas par des politiques austéritaires, ça passera par des moyens donnés en politique, pour permettre, voilà, un changement dans les mentalités, un changement dans les habitudes, un changement dans la gestion du privé, dans tout ce qui ne va pas en ce moment qui entache la cause des femmes de nos jours.
Vous avez le féminisme là-dessus, vous rejoignez ?
Oui, alors je rejoins totalement. Et je dirais aussi que, en fait, dans les lois qu'on a actuellement, les lois sont assez... assez intéressante, assez complète. Il faudrait maintenant, nous, on se bat pour que les lois soient appliquées et pour une meilleure, évidemment, éducation à l'égalité. Mais surtout, en fait, on est vraiment pour une politique transversale, donc à tous les niveaux de la société et qui prend en compte les femmes.
D'accord, donc on revient à ça, pour des politiques transversales et non plus sectorielles. On mise sur l'éducation, on mise sur la laïcité. Alors je vous remercie à tous, François pour l'UMP, Sophia pour le Parti de gauche. Merci. Et le Front de gauche, et Tao pour Oser le féminisme. Et on remercie à la technique, Xavier et Thomas, merci. Et moi, je vous donne rendez-vous le 21 novembre prochain sur le sujet de l'Europe, la question européenne aujourd'hui. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.